Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka Strasbourg et RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. L'Union européenne apparaît souvent, il faut bien le dire, pour un certain nombre de citoyens comme complexe et quelque peu éloigné des citoyens. Quand on pense à la Commission européenne, on voit Bruxelles et certainement pas Paris ou Marseille. Pourtant, que ce soit à travers certaines politiques ou par la présence de services, de bureaux, l'Union européenne est présente sur tout le territoire de ses États membres. Ainsi, en France, est installée à Paris et à Marseille une représentation de la Commission européenne. Ces représentations ne sont pas toujours bien connues du public. Pour mieux comprendre le rôle et les missions de ces représentations, nous sommes heureux d'accueillir Madame Valérie Drozet-Humez, qui dirige la représentation de la Commission européenne en France depuis le 1er septembre de cette année. Bonjour Madame Drozet-Humez et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci de votre invitation.
J'ai bien prononcé votre nom, j'ai eu un doute.
C'est parfait.
Alors pour commencer cet entretien, pourriez-vous nous expliquer le rôle et la mission d'une représentation de la Commission européenne ? Peut-on parler d'une sorte d'ambassade de l'Union européenne dans chaque État membre ?
On peut tout à fait parler d'une sorte d'ambassade, effectivement, puisque notre première vocation, c'est de rapprocher l'Europe des citoyens. Et je dirais même dans les deux sens, non seulement être à l'écoute des citoyens et pouvoir ramener vers Bruxelles un peu les préoccupations, les interrogations, les critiques, soyons honnêtes, hein, c'est très important dans un débat démocratique aussi de récupérer ces critiques, et aussi de mieux faire connaître les politiques européennes, leurs objectifs, leurs destinations, mettre à disposition les financements et faire bénéficier chaque citoyen européen des politiques qui sont avant tout faites pour eux.
On reviendra après concrètement sur certains points, mais vous êtes aussi donc un des visages de la Commission européenne en France. Vous avez une expérience, vous personnellement, de plus de 25 années au sein de la Commission européenne. Pouvez-vous vous présenter votre parcours et ce qui vous a conduit aujourd'hui à prendre ce poste de représentant chef de la représentation de la Commission européenne ?
Je ne sais pas jusqu'où vous voulez que je parte dans le passé, la paléontologie de mon parcours, mais je dirais que je ne suis pas venue, je dirais, à la Commission européenne par vocation. Certains préparent les concours, je ne dis pas dès le berceau, je ne pense pas, mais voulaient vraiment faire ça. Je dirais que je suis venue à l'Europe par ses réalités et sa présence dans la vie de tous les jours. Et ce qui fait que quand je suis arrivée à la Commission, j'ai commencé à travailler au niveau de la Direction générale de l'environnement, un domaine que je ne connaissais pas spécifiquement. Mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment juste précisément d'avoir ce trait d'union entre une réalité qui déjà se faisait jour au niveau du changement climatique ou de l'environnement, mais aussi des partenaires industriels, des ONG, et de pouvoir faire le lien entre ces différentes préoccupations et le fait de faire des politiques publiques pour changer la donne. Donc ça, c'était quelque chose qui était très intéressant pour moi. Après, j'ai alterné d'autres postes, toujours à l'environnement, avant de suivre d'autres parcours. Et avant d'arriver à Paris, j'ai passé plus de 11 ans au secrétariat général de la Commission européenne, qui est un petit peu une façon de voir vraiment comment la machine fonctionne dans toutes, peut-être, ces arcanes qui peuvent sembler très lointaines. Mais justement, mon intérêt, c'était toujours de montrer l'objectif, le but est derrière peut-être des décisions, derrière peut-être des procédures, mais qu'avant tout, on était là pour travailler pour les citoyens, pour les soutenir dans leurs projets, pour changer leur vie, améliorer leur vie. Et ça, c'est pour moi une constante. Alors, quand cette opportunité de venir en France pour représenter la Commission, mais aussi pour écouter à nouveau les Français et mieux les faire connaître vers Bruxelles dans leurs préoccupations européennes, je n'ai pas pu résister au défi. J'avoue que j'ai dit, c'est peut-être, après 25 ans, un bon moyen de porter ce message que, pour moi, une Europe, c'est une Europe unie, qui n'est pas désincarnée, qui est proche des gens, et que les politiques doivent travailler pour eux et traduire cette réalité au jour le jour.
Vous êtes sur le terrain, vous êtes même ici aujourd'hui à Strasbourg. Donc, comme vous l'avez dit, vous prenez un peu le pouls de la situation en France que vous remettez à la Commission européenne. Hein, c'est bien ce que vous nous expliquez. Quel rapport ont, selon vous, aujourd'hui les Français avec l'Union européenne ? Comment vous ressentez ce rapport, que ce soit vous sur le terrain, avec vos services ? Qu'est-ce qui est différent par rapport peut-être à d'autres pays de l'Union européenne?
Je dirais, par rapport à mon expérience et au fait que j'avais été un peu plus éloignée de la France pendant de nombreuses années, ce que je trouve intéressant, c'est de voir plus la diversité. On a tendance à dire les Français ou d'autres nationalités sont eurosceptiques, eurofavorables, un peu catégorisés, être assez manichéen là-dessus. Et je trouve intéressant en fait, de voir un peu plus de diversité. Je le vois dans le discours de certains de vos confrères, où on voit des papiers et des positionnements européens, notamment sur le rétablissement de l'information et de la réalité des faits, qui est très intéressant. J'étais la semaine dernière à un congrès d'association de jeunes qui j'ai vu motivés pour leur avenir, informés sur l'Europe, qui vraiment donne envie de travailler pour eux, hein, clairement. On discute avec d'autres parties intéressées et de voir cette diversité, de voir les sondages Eurobaromètre qui montrent l'intérêt des Français pour connaître l'Europe aussi. Pour moi, c'est vraiment une motivation supplémentaire vraiment pour cet engagement, pour continuer à rapprocher l'Europe, à les écouter et à répondre à la diversité de ses préoccupations.
Il n'empêche que selon une récente étude baromètre, hein, c'est la dernière que j'ai pu voir, c'est de février 2020, 55% des Français s'estiment souvent mal informés sur l'Europe. Et c'est quelque chose que l'on peut entendre régulièrement, on n'y comprend rien, on ne savait pas. Qu'est-ce qui peut expliquer selon vous ce sentiment et comment vous, à la représentation de la Commission européenne, pouvez contribuer à une meilleure information des citoyens?
Alors effectivement, c'est un constat. D'abord, pour moi, c'est un constat quelque part c'est très, très étrangement positif. Ça veut dire qu'ils ont une envie d'Europe. Ils voudraient entendre plus parler d'Europe. Ils ont conscience qu'il y a quelque chose d'autre, mais que peut-être il y a une espèce de voile invisible ou plus qui est là. Donc nous, ce que nous essayons de faire à la représentation, c'est d'agir sur différents sujets. On parlait des journalistes, hein, de travailler avec eux en amont, la presse audiovisuelle ou la presse papier, parce que je pense que c'est important que quelqu'un qui n'est peut-être pas dans des cercles, entre guillemets, habitué à l'Europe, puisse, dans un journal, avoir une primo-information. Et puis, on est sur le terrain avec plus de 50 centres Europe Direct qui sont
partenaires de cette émission.
Exactement. Qui font un maillage territorial qui est pour nous très, très important, parce qu'eux aussi sont des petites ambassades. Ils vont présenter ce que l'Europe fait pour les citoyens, mais eux aussi vont pouvoir nous faire remonter des éléments. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important. On a aussi développé, vous citiez la représentation, le bureau de représentation à Marseille, un pôle territorial, justement, pour montrer que c'est une dimension très, très importante pour faire connaître la politique au plus près du terrain et faire connaître les réalités, justement, de ce terrain, pour les injecter dans les politiques européennes. Donc on travaille un petit peu tous azimuts, on va aussi dans des festivals de musique pour toucher les jeunes, on participe à des dialogues citoyens dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. On essaie vraiment de diversifier au maximum pour que les 55% diminuent un petit peu.
Alors, on dit souvent hein, que les élus sont peut-être mieux informés. Vous étiez à Strasbourg pour l'université de l'AFCCRE, l'association française du Conseil des communes et régions d'Europe, hein, qui regroupe, je crois, près de 1000 collectivités territoriales. Quel message vous leur avez fait passer lors de cette conférence?
Alors, nous étions à une table ronde qui parlait de la sortie de crise et des défis sociaux qui se présentent à l'Europe. Et le premier message que je leur ai passé, c'était de prendre un temps pour réaliser que l'Europe avait été là pendant la crise et malgré des démarrages difficiles, hein, dans une situation que nous avons tous connue, les succès, l'accès à la vaccination, la protection de l'emploi, le soutien aux personnes qui étaient sans emploi via des mécanismes financiers, l'Europe a répondu présent. Et le deuxième message important pour moi, c'était de mettre en exergue cette complémentarité. Donc, que les élus territoriaux sont au contact des populations et l'Europe a fourni un cadre politique et un cadre financier pour leur permettre de répondre aux urgences, aux besoins. Et j'étais vraiment ravie de voir que beaucoup d'élus ont souligné que l'Europe avait été là et on avait des exemples concrets pour montrer à quel point ils avaient pu protéger leur population dans ces circonstances difficiles.
Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale avec le groupe électronique slovène Grammatik. Alors, j'ai choisi la Slovénie parce qu'elle préside actuellement le Conseil de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre. Et c'est la France qui prendra la suite.
Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. I'm going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. I'm going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Shake your hand.
Drosay Humez, j'aimerais revenir avec vous sur ce moment politique européen important que constitue le discours annuel sur l'état de l'Union devant les parlementaires européens. Avant d'aborder le fond des propositions, comment expliquer que les médias ne s'emparent pas de ce moment pour informer le public sur les choix politiques qui se dessinent et le chemin que la présidente de la Commission européenne propose de suivre ? Et quels sont pour vous les points importants de ce discours ?
Pour moi, l'élément essentiel de son message, c'était cette fierté européenne que nous devons avoir ensemble, parce que nous avons montré pendant la crise que, en travaillant ensemble, en étant solidaires, nous avions pu vraiment être aux côtés des populations et leur permettre, comme je disais précédemment, de garder des revenus ou d'avoir un accès à la vaccination. Et je pense que son message, c'est de dire on a démontré dans des circonstances difficiles qu'on pouvait remettre le marché intérieur pour avoir un accès aux produits nécessaires, notamment pour la fabrication des vaccins, qu'on pouvait sentir l'Europe vraiment de manière très très concrète, qu'on l'avait fait, et que donc, sur cette base, on pouvait, fort de cette nouvelle fierté et de ce succès, affronter de nouveaux défis. Parce que les défis de la transition numérique, de la transition écologique sont là. Et le fait de donner la dimension sociale et à l'humain est quelque chose d'important. Et pour moi, ça, c'était un message très fort. Et le deuxième message aussi, c'était son appel pour avoir en 2022 l'année européenne de la jeunesse et cette reconnaissance de ce que la jeunesse a payé à travers cette pandémie et de focaliser sur cette population l'avenir, l'engagement européen dans les nouvelles politiques qui vont être mises sur la table. Pour moi, c'est les deux messages clés de ce discours. Alors sa couverture, bon, je dirais, je suis foncièrement optimiste, hein, donc c'était mieux que certaines années. France 24 a fait un plateau, France Info aussi l'a couvert. Je suis moi-même allée faire une interview, donc je dirais à nouveau mieux. Mais comme nous disions précédemment, la couverture, en tout cas en audiovisuel, encore beaucoup de progrès à faire. Nous travaillons avec certaines rédactions pour réfléchir, notamment en amont de la présence française de l'Union européenne, pour voir ce qu'on peut faire de mieux. Vous voyez aussi que l'Assemblée nationale et le Sénat ont eu des commissions pour réfléchir à cette problématique. Donc je pense que le constat est là. Au niveau des solutions, personne n'a trouvé la solution miracle, mais on va tous travailler sur un plan d'action.
Moi, je me pose souvent la question, qu'est-ce qui explique que les médias, que les rédactions ne s'intéressent pas à un événement comme ça? Comment vous l'expliquez? Parce que quoi qu'il en soit, c'est toute l'Union européenne qui est intéressée, concernée par ces priorités, puisqu'il y a quand même des priorités qui sont fixées, c'est quand même un moment important. On imagine le discours sur l'état de l'Union aux États-Unis, c'est couvert, c'est des moments, je dirais, médiatiques importants. Pourquoi, au niveau européen, ça ne prend pas?
L'intégration, je dirais, des différentes dimensions dans la vie institutionnelle l'explique peut-être. Hein. C'est vrai que Bruxelles est souvent réduit au temps du Conseil européen. ou les déclarations préalables sur ce que les États membres pensent réaliser lors du Conseil européen et le résultat après. On sait comment c'est parfois utilisé. Et le temps de la Commission est peut-être pas encore installé. Mais bon, comme je disais, je vois du progrès et c'était important, en ayant vu l'Europe en action avec cette pandémie, je pense que petit à petit, on voit un intérêt néanmoins. Donc je pense qu'on a beaucoup de perspectives devant nous pour changer ce discours.
Alors au mois de janvier, la France assurera la présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est donc le gouvernement français qui fixera ses priorités pour 6 mois et qui essaiera de faire avancer certains dossiers auxquels il est attaché. Comment s'organisera cette présidence et quel sera le rôle joué par votre représentation à Paris ?
Alors nous serons surtout là en soutien des membres du collège, donc des commissaires, de la présidente et des vice-présidents qui viendront participer à certains événements en France, hein, bien sûr. Nous assurerons le relais avec les autorités françaises et aussi avec Bruxelles par rapport aux propositions qui sont sur la table, notamment pour les expliquer en amont et aussi, bien sûr, avoir d'autres événements. Parce que les événements institutionnels, c'est une chose, mais à nouveau, ce qui est très important, c'est d'être présent sur le terrain, d'expliquer, on parlait de la couverture médiatique, d'expliquer aux journalistes, de faire peut-être des briefings aux journalistes, d'expliquer aux autres États membres ce qui se passe un petit peu, et à d'autres populations pour être sûr qu'il y ait vraiment une bonne implication, une bonne compréhension, et qu'on soit vraiment pendant ce temps fort d'Europe en France, qu'on donne un écho justement à cette dimension, à la hauteur de nos moyens.
Alors je terminerai cette émission par le dernier sujet important de cette rentrée, c'est l'intensification des travaux et du rythme des événements autour de la conférence sur l'avenir de l'Europe. En France ont eu lieu ce mois-ci des consultations régionales sur l'avenir de l'Europe et au Parlement européen. À Strasbourg se sont retrouvés et se retrouvent encore actuellement 800 citoyens venus de toute l'Europe. Ces panels citoyens sont au cœur du dispositif de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Comment participer au débat sur l'avenir de l'Europe et qu'attendez-vous, vous, de cette conférence ?
J'attends surtout que chacun et chacune saisisse cette opportunité. On a cette possibilité d'avoir cette démocratie participative en action et je crois que c'est très important de montrer que ça fonctionne et qu'il y a, du répondant finalement à cette offre. Alors ça peut être une offre par les panels, par d'autres dialogues citoyens, par l'utilisation de la plateforme. Je pense que vraiment pour moi l'essentiel c'est que chacun saisisse cette chance. Je parlais de l'année de la jeunesse, j'attends vraiment que les jeunes nous expliquent comment ils dessineraient leur Europe et qu'on puisse se saisir de ces éléments pour que nous, au niveau plus institutionnel, on colle plus aux réalités et aux besoins et aux attentes des citoyens européens.
On va peut-être rappeler le site web où on peut retrouver cette plateforme, c'est futureeu.europa.eu et on le mettra sur le site web de l'émission. On a l'habitude de terminer l'émission par une petite rubrique qui s'appelle Catch the Eye.
J'ai passé la parole dans le cadre de Catch the Eye.
Catch the Eye.
Catch the Eye.
We now move to Catch the Eye.
Catch the Eye.
Le concept, c'est réponse, question courte, normalement, et réponse courte. Quelle est pour vous la plus grande réussite de l'Union européenne ? Ça peut être dès le départ ou récemment. Quelle est pour vous la plus grande réussite de l'Union européenne ?
D'avoir maintenu sa cohésion, sa solidarité.
Et si vous aviez un échec, quelque chose que vous trouveriez plutôt négatif ?
Qu'on ne soit pas toujours plus solidaire à certains moments, pour rester dans notre tonalité.
Je vois que vous êtes très optimiste. Et il y a une des questions qui est posée dans les conférences régionales, dans les panels régionaux sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est en tant que citoyen français, quel changement souhaitez-vous pour l'Europe ? Quelle serait, vous, votre réponse à cette question ?
J'ai beaucoup d'idées qui me viennent en tête et vous voulez une réponse courte. Donc je me trouve vraiment embêtée à dire ça. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'elle continue sur la voie du changement et de s'adapter continuellement pour rester fidèle à ses valeurs.
Donc, et si on rajoutait votre rêve et votre souhait pour l'Europe, si on devait rêver et avoir un souhait incroyable pour l'Europe, ce serait lequel ?
Un souhait incroyable, je ne sais pas, mais déjà que l'aventure continue et qu'elle fasse encore rêver nos jeunes.
Dernière question, et si vous aviez un conseil, là on sort totalement de ce sujet, alors je ne sais pas si vous avez le temps depuis que vous avez repris vos fonctions à la Commission, si vous avez un conseil lecture, un conseil sortie à conseiller, à proposer à nos auditeurs, ce serait lequel ?
Il y a actuellement au musée du Louvre une exposition qui vient d'ouvrir sur la Grèce, et je conseillerais de la visiter. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la visite du Premier ministre Mitsotakis en France, sans doute. Mais je pense que c'est une belle exposition à voir.
Alors merci Madame Drezet-Humez pour votre participation à l'émission et nous avoir consacré un peu de temps alors que vous sortez d'une conférence durant cet après-midi. Merci à tous pour votre écoute et si vous avez une question, n'hésitez pas à revenir vers le Centre d'information Europe Direct de Strasbourg. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.
Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.